Hector Malot, Ghislaine, deuxième partie. Chapitre 1. Le lendemain, à midi, Philippe, le valet de chambre du comte de Chambray, se décidait, après avoir hésité plusieurs fois, à éveiller son maître, qui, rentré seulement à 5 heures, dormait du lourd sommeil des nuits prolongées. « Je demande pardon à monsieur le comte de le réveiller, » dit-il en toussant discrètement. « C'est une dépêche que j'ai reçue de mademoiselle de Chambray il y a déjà près de 2 heures. Elle demande une réponse, alors... » Brusquement, le comte se mit sur son séant et prit le papier bleu que Philippe lui présentait sur un plateau. « Tire les rideaux !» C'était rue de Rivoli, en face des Tuileries, presque au coin de la place de la Concorde, que demeurait le comte, à l'une des expositions les plus claires et les plus ensoleillées de Paris, assurément. Cependant, la nappe de lumière crue qui emplit la chambre ne lui permit pas de déchiffrer la dépêche qu'il tenait à bout de bras. Par coquetterie, il n'avait pas voulu se résigner encore aux lunettes ni aux pince-nez, et pour qu'il pût lire, certaines conditions d'éclairage lui étaient nécessaires, qu'il ne trouvait pas dans son lit drapé de rideaux de satin rouge. « Lis-toi-même, » dit-il en rendant la dépêche à Philippe. « Prévenez mon oncle que j'ai besoin de le voir aujourd'hui et que je le prie de venir à Chambray. S'il est déjà sorti au reçu de cette dépêche, portez-la lui. Une voiture l'attendra à la gare à partir de 2 heures. « Que me lis-tu là ?»« Rien que ce qui est sur la dépêche. » Le comte sauta à bas du lit et courut à la fenêtre où il trouverait l'éclairage qu'il lui fallait. Mais s'il n'avait rien compris à la dépêche quand Philippe la lui avait lue, elle ne fut guère moins obscure quand il la lut lui-même. Que se passait-il donc à Chambray pour qu'elle l'appelât ainsi en toute hâte? Il n'y avait pas à hésiter, il fallait partir. « Commande-moi 2 œufs et une tasse de thé, » dit-il. Puis, quand le valet de chambre fut sorti, il commença à s'habiller. « Et je m'imaginais que l'émancipation me rendrait ma liberté, » s'écria-t-il tout à coup. Précisément, toutes sortes d'affaires exigeaient que ce jour-là, il fût libre. À 2h30, il avait un rendez-vous au Tattersall pour aider un de ses amis à choisir un cheval. À 4h, il présidait une séance d'escrime. À 7h, il dînait au cabaret avec une petite femme charmante qui 20 fois avait refusé son invitation et capitulait enfin. Voilà qu'il fallait changer tout cela et, ce qui l'ennuyait le plus au monde, écrire un tas de lettres pour s'excuser. La visite au Tattersall, la séance d'escrime passe encore. Mais le dîner, elle pourrait très bien se fâcher, la petite femme charmante. Alors c'était une occasion perdue qui ne se retrouverait pas. À la hâte, il écrivit ses lettres, à la hâte aussi il avala son déjeuner, et à 3 heures, il descendait de voiture devant le perron du château où Ghislaine l'attendait seule. En la regardant, il fut surpris de l'étrangeté de son attitude, comme en écoutant les quelques paroles qu'elle lui adressa, il le fut dès son rauque de sa voix tremblante. Se serait-il passé quelque chose de plus grave que ce qu'il avait imaginé? Ce fut ce qu'il se demanda en la suivant dans son appartement. Aussitôt qu'ils furent entrés dans le petit salon qui précédait la chambre de Ghislaine, elle ferma la porte avec un soin qu'il ne put pas ne pas remarquer. De même, il remarqua aussi que, malgré la chaleur, les fenêtres donnant sur le nord étaient closes. Il chercha les yeux de sa nièce pour l'interroger, mais il ne les rencontra pas. « Eh bien, mon enfant, que se passe-t-il » demanda-t-il à mi-voix, d'un ton affectueux et encourageant. Elle ne répondit pas. « Tu as besoin de moi, me voilà, tout à ta disposition. » Elle se cacha le visage entre ses deux mains et, d'une voix brisée, à peine perceptible, elle murmura « La chose la plus infâme, la plus monstrueuse !» L'émotion lui coupa la parole, et ce ne furent que des sons inintelligibles pour M. de Chambray qu'elle prononça. Puis, brusquement, elle s'arrêta et fondit en larmes. Il comprit que ce qu'il avait imaginé était à côté de la vérité, terrible à coup sûr, mais sans pouvoir la deviner, sans oser même l'envisager hardiment. Pourtant, il fallait venir en aide à la pauvre enfant, et par de bonnes paroles, la pousser, la forcer. « Ma chère enfant, ma petite fille, si tu avais encore ton père, ce qui t'oppresse, tu le lui confierais, n'est-ce pas? Il est vrai que je n'ai pas été tout à fait un père pour toi, mais je t'assure que j'en ai l'affection, la tendresse, l'indulgence. Parle-moi donc, comme s'il t'écoutait. Il s'était approché d'elle et l'avait prise dans ses bras. Elle s'appuya contre lui, la tête basse, et il sentit qu'un tremblement la secouait. Il attendit un moment, car s'il fallait l'encourager, c'était sans la brusquer. « Je n'ose pas !» murmura-t-elle. « Je ne peux pas !» Puis, baissant encore la voix, « Vous souvenez-vous de ce que vous m'avez dit à propos de mon goût pour la musique ?» Un éclair le frappa. « Nicétas ! » s'écria-t-il. « Oui !» Tous deux en même temps s'arrêtèrent et un silence s'établit. M. de Chambray se refusait à aller, jusqu'où ce qu'il voyait du désespoir de Ghislaine le poussait. Et Ghislaine hésitait, reculait, devant ce qui lui restait à dire. Il sentit qu'il devait l'aider et lui tendre une main qui l'entraîna et la soutint en même temps. « Tu vois que j'avais raison de me défier de ce Nicétas et de te recommander la réserve avec lui. « Croyez, mon oncle, que je me suis toujours enfermée dans cette réserve !» Ce fut un soulagement pour M. de Chambray. Il avait foi dans la parole de Ghislaine, et ce qu'elle disait, il savait qu'il pouvait la croire. Si elle ne s'était pas laissée prendre au regard passionné de ce musicien, rien de bien grave n'était à craindre, semblait-il. Sans doute, il s'agissait de quelques déclarations ridicules dont elle s'était exagéré la portée. Il n'y avait qu'à congédier le drôle, et cela serait facile. « Alors, parle, tu comprends qu'il faut tout me dire, si pénible que cela puisse être. »«
Comment ?
Tu n'avais donc jamais encouragé Nicétas ?
Oh, jamais !
Cependant, je n'avais même jamais admis la pensée qu'il pût prendre mon attitude avec lui pour un encouragement. À la vérité, il était quelquefois étrange, souvent il me regardait d'une façon gênante, il tenait des discours incohérents, mais je m'expliquais tout cela par la bizarrerie de son caractère.
Comment supposer ?
Évidemment. Les choses en étaient là, et je me proposais même d'observer avec lui une plus grande réserve encore, comme vous me l'aviez recommandé, quand, vendredi, Lady Capados l'a retenue à dîner.
Et pourquoi ?
Il y avait eu de l'orage. Elle craignait qu'il ne fût mouillé en retournant à la gare. Enfin, elle a pour lui, vous le savez, beaucoup de sympathie. Pendant le dîner, il s'était montré ce que je l'avais toujours vu, ni plus ni moins étrange. En nous levant de table, Lady Capados et moi, nous fîmes une promenade dans le parc, la pluie ayant cessé, et... lui partit pour la station. Au moins, je crus qu'il partait. Mais en rentrant après notre promenade, je le trouvai dans ma chambre. Sans doute il était entré par une fenêtre ouverte et il s'était caché derrière un rideau d'où il sortit quand je fus seul. Mon premier mouvement fut de me jeter sur la sonnette, mais il s'était placé entre elle et moi. Je pensais aussi à appeler, à crier, mais la peur du scandale me retint, la honte d'avoir à rougir devant les domestiques. Et avant d'en venir là, je voulus essayer de me défendre seul.
« Bien, ma fille.
Dois-je vous répéter ce qu'il m'a dit ?»«
Non, seulement ce qu'il est indispensable que je sache. »
Il commença par me dire qu'il fallait qu'il me parlât, qu'il y allait de sa vie. Je lui répondis que je n'avais rien à entendre, que je l'écouterais le lendemain, qu'il devait partir, mais il ne partit point, et alors il se jeta à genoux.
« Je comprends, passe. »
Je voulus sortir moi-même, il se plaça devant la porte. Je recommençai à le presser de partir et il répondit qu'il m'obéirait si je voulais prendre l'engagement que je serais pour lui après cet aveu ce que j'étais avant. Je refusai et comme il s'obstinait à rester, à parler, je le menaçai d'appeler à l'aide. À mon accent, il comprit que j'étais décidé à tout plutôt qu'à supporter ses outrages une minute de plus. Il enjamba la fenêtre en me priant de me souvenir qu'il m'avait obéi. Et depuis ? Il m'était impossible de le retrouver en face de moi. Sans confesser la vérité à Lady Capados, je la priai de lui écrire pour le prévenir que les leçons étaient interrompues. Puis, pour ne pas être exposé à ce qu'il revînt dans ma chambre comme la première fois, je recommandai qu'on tînt toutes les fenêtres de mon appartement fermées avant le dîner. Je me croyais en sûreté. Hier soir, elle s'arrêta et sa voix qui s'était raffermie s'altéra au point d'être à peine intelligible. Hier soir, je rentrais chez moi, accompagnée de Jeanne. Toutes les fenêtres étaient fermées et rien ne se présentait d'inquiétant. Rassurée,
je permis à Jeanne d'aller passer une heure chez sa mère, mais en lui ordonnant de fermer la porte de sa chambre et d'en emporter la clé. La mienne était verrouillée. Au bout d'un certain temps, je passai dans le cabinet de toilette et, au moment où je posais ma bougie sur la console, il était là. Il me saisit dans son bras et me ferma la bouche d'une main. Je voulus appeler, me débattre, me dégager. La force me manqua. Quand je revins à moi, il n'était plus là. Une fenêtre de ma chambre était entrouverte.